Bonjour à tous, bienvenue dans le cadre de cette conférence, dans le cadre de la Fête de l'Europe 2022. C'est une conférence débat qui a été donc initiée et organisée par les Défricheurs. Les Défricheurs, une association qui valorise l'engagement citoyen et les initiatives positives sur le territoire pour une société durable, solidaire et désirable. Nous avons choisi d'aborder deux thèmes. Un thème qui va s'inscrire dans les actions de l'Union européenne. Bien entendu, les deux thèmes que nous abordons sont en lien direct avec l'actualité du moment. L'actualité qui, malheureusement, concerne la guerre en Ukraine. Donc, je suis heureuse d'accueillir tout d'abord notre premier intervenant, Monsieur Ted, qui est directeur et proviseur de l'École européenne de Strasbourg, qui nous présentera dans un premier temps l'action de cette école européenne, le rôle des écoles européennes, parce qu'évidemment il n'y a pas qu'en France qu'il existe des écoles européennes, mais c'est un réseau, et qui nous parlera dans un deuxième temps d'un sujet qui me semble extrêmement important pour notre avenir, l'avenir de l'Union européenne, la continuité dans la construction de l'Union européenne, un rôle qu'a pris ce réseau de faire un travail sur la mémoire, sur l'histoire. Nous avons constaté, quand je dis nous, bien entendu, je me réfère à les personnes compétentes de l'Union européenne qui sont chargées de ces questions-là, les chercheurs, les historiens, qu'il existe une histoire différente, racontée, enseignée dans les différents pays de l'Union européenne, les écoles européennes, mais avec d'abord une première décision du Parlement qui a considéré que ce sujet était important pour fonder une mémoire collective, c'est d'échanger entre historiens, entre chercheurs, et pour essayer de décrire une histoire commune de l'Union européenne, qui, bien entendu, contribuera à la mise en place d'une conscience collective de l'histoire de l'Union européenne. Dans un troisième temps, puisque c'est notre actualité, Monsieur Ted nous parlera des 40 jeunes Ukrainiens qui sont réfugiés en France et qui sont aujourd'hui accueillis à l'école européenne de Strasbourg. Ces sujets s'inscrivent dans les actions mis en place par l'Union européenne, des actions qui découlent d'un principe fondamental, la liberté de circuler. À partir du moment où on permet aux citoyens européens de travailler dans un pays, dans deux pays, dans trois pays, cela engage quelque part une famille qui va se déplacer, et nous avons aussi la responsabilité de faire en sorte que les enfants puissent avoir le même accès à l'éducation malgré le fait de changer de pays au sein de l'Union européenne. Et donc, on est dans quelque chose qui valorise non seulement une liberté, mais aussi une continuité sur les différents droits qu'on accorde aux citoyens européens. On a le droit de bouger, mais il ne faut pas négliger le droit à l'éducation des enfants. Dans un deuxième temps, nous aborderons un autre sujet qui est celui de notre contribution. Comment pouvons-nous être acteurs dans ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire la guerre en Ukraine? Nous avons beaucoup de réfugiés, d'enfants qui sont accueillis, par exemple à l'école européenne. Comment leur parler? Comment libérer la parole? Pourquoi faut-il le faire? Pourquoi c'est important? Je rajouterai que nous avons peut-être aussi cette responsabilité de se former par rapport à ça pour être le citoyen européen qui permettra aussi d'être en mesure de mettre en œuvre des valeurs. Donc, pour ce faire, nous accueillons Madame Valette Dossia, qui est formatrice en communication positive et qui va nous faire des propositions pour nous aider à réagir, à aider ses enfants, à libérer la parole de ses enfants qui ont subi un traumatisme, celui de la guerre. Alors, on va commencer juste par remettre ces deux sujets dans un contexte plus global, qui est celui de la construction européenne. Le propos n'est absolument pas de faire un exposé sur la construction européenne, simplement rappeler quelques fondamentaux pour inscrire ces deux interventions dans un cadre. Nous avons ici deux images qui nous retracent la construction européenne avec, d'une part, une chronologie, les adhésions des différents pays membres. Nous avons commencé à 6, nous sommes aujourd'hui 27, nous étions 28. Il y a eu une construction sur la durée, un élargissement géographique. C'est ce que nous montre cette image. Une adhésion de pays qui ont voulu faire partie de l'Union européenne. Sur la deuxième image, nous trouvons les symboles et les valeurs qui sont aujourd'hui les symboles de l'Union européenne. Premièrement, le drapeau, 12 étoiles et une phrase qui a été donc le résultat d'un concours qui a été organisé auprès d'établissements scolaires. Et c'est aujourd'hui le principe de l'Union européenne qui est lié à notre drapeau, uni dans la diversité. Nos valeurs sont d'abord la paix, la démocratie et la solidarité. Donc là, nous avons le cheminement de la construction européenne. Tout ça pour vous dire que nous sommes passés d'une union économique, d'intérêts économiques mis en commun avec un but très précis, garantir la paix. Mais nous avons fait un chemin et aujourd'hui les compétences de l'Union européenne vont bien au-delà. Nous sommes partis de la volonté, du courage, de l'intelligence de deux personnes, Konrad Adenauer et Charles de Gaulle, qui ont décidé de construire la paix, qui ont réfléchi comment faire. Et à l'époque, on considérait que la mise en commun d'intérêts économiques était un moyen pour s'unir, unir ses intérêts et donc empêcher de se faire la guerre. Pendant longtemps, cette dimension de l'Union européenne a été critiquée parce que certainement les citoyens européens étaient prêts à autre chose et nous sommes passés à autre chose. Les institutions ont évolué, mais les compétences ont évolué. Et aujourd'hui, on en est à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et dans cette charte, on traite non seulement des problèmes des compétences économiques, mais également de la citoyenneté, de la démocratie, de la solidarité, des droits sociaux, des réfugiés. Nous avons réussi dans les institutions à unir, à élargir les compétences parce que les citoyens européens, à un moment donné, et nous sommes encore en construction, nous allons encore plus loin, sont prêts pour plus. Aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, les acquis de l'Union européenne sont partout. Vous avez ici quelques petits exemples. Par exemple, la Roumanie, une journée commence avec des produits cosmétiques, on se lave, labellisés écolabel européen. Aujourd'hui, sur nos produits, nous avons des normes de sécurité, que ce soit sur l'hygiène. Ce sont des choses qui ont été mises en place par l'Union européenne. C'est un travail qui a été fait au sein de l'Union européenne. Et ça nous protège, ça protège notre santé, ça protège notre sécurité. Qu'est-ce que je peux prendre comme autre exemple? Le Wi-Fi, le travail, le télétravail, mais plus simplement, en habitant à Strasbourg, en passant la frontière, nous allons dans un pays qui, avant l'Union européenne, était un pays étranger. Nous payons avec une carte de paiement sans problème, nous payons avec une monnaie unique, nous prenons un tram qui s'est construit entre deux pays. Toutes ces choses sont possibles parce que l'Union européenne est intervenue. Je donne donc la parole à M. Ted qui va nous présenter l'École européenne de Strasbourg.
Merci beaucoup, chère Martine Schneider, pour cette introduction. Donc, je me présente, je suis Olivier Ted, je suis le proviseur de l'École européenne, proviseur depuis 2018, année de mon arrivée à Strasbourg. Alors, mon intervention aura vocation à vous présenter succinctement ce qu'est une école européenne et puis à m'interroger surtout sur l'un des aspects fondamentaux qui marque l'enseignement européen, qui est l'enseignement de l'histoire, la question de la mémoire. Et derrière ça, nous allons corrélé, sans nul doute, l'actualité la plus récente, à savoir l'accueil des Ukrainiens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une école européenne ? C'est toujours un petit peu étonnant parce qu'une école européenne, c'est un peu un ovni dans le paysage éducatif. Il y en a une à Strasbourg, il y en a quatre en France. Hein. Les autres sont à Paris, Lille et Manosque, près de Marseille. Les écoles européennes ont été fondées par le traité intergouvernemental de 1953. Elles avaient vocation, au tout début, à permettre la scolarisation des enfants, des personnels de l'Union européenne, où qu'ils soient, dans les institutions. En toute honnêteté, à l'époque, donc, ces établissements qui étaient en gestion directe de la Commission étaient surtout à Bruxelles, à Luxembourg et dans quelques villes d'Allemagne où il y a des institutions européennes. Un peu aussi en Italie, un petit peu aussi en Suède, ainsi de suite. Rapidement, le constat a été fait que le modèle éducatif proposé était extrêmement intéressant et qu'il devait aussi pouvoir potentiellement permettre la mobilité internationale de tous les acteurs européens, quels qu'ils soient, même ceux qui ne travaillent pas pour les institutions de l'Union européenne. C'est pour cela que, dès 82, on a commencé à réfléchir à un nouveau cadre. Et ce cadre, ce sont les écoles accréditées, comme celle de Strasbourg. Une école accréditée, c'est une école qui est décidée, dont la fondation est décidée par l'État. En l'occurrence ici, ça a été le cas en 2008. C'est un établissement public, pas privé, public, dont la vocation est de permettre l'éducation selon le modèle européen. À Strasbourg, plus particulièrement, bien sûr, l'école européenne a vocation à instruire les enfants des personnels de l'Union européenne, Parlement, médiateurs, ainsi de suite. Mais aussi, bien sûr, ceux du Conseil de l'Europe et des institutions qui y sont corrélées. Mais l'école européenne, c'est aussi une école qui accueille des jeunes Strasbourgeois dont la famille a un projet, on va dire, international ou européen particulier. Ce sont des scientifiques, des universitaires, des chercheurs, ce sont des personnes qui travaillent dans l'industrie, dans l'économie, ce sont des diplomates, bien sûr, qui sont accrédités auprès du Conseil de l'Europe, ce sont aussi des personnes qui ont l'objectif de pouvoir bouger à travers toute l'Europe et qui souhaitent donner à leurs enfants une éducation qui est plurilingue. Alors, pour vous donner une idée de ce que sont les valeurs d'une école européenne, je vais vous lire quelques lignes qui sont pour nous extrêmement importantes, car elles développent tous les principes fondateurs du système des écoles européennes. Élevés au contact les uns des autres, libérés dès leur plus jeune âge des préjugés qui les divisent, initiés aux beautés et aux valeurs des diverses cultures, ils, les élèves, prendront conscience en grandissant de leur solidarité. Tout en gardant l'amour et la fierté de leur patrie, ils deviendront, par l'esprit, des Européens, bien préparés à achever et consolider l'œuvre entreprise par leur père pour l'avènement d'une Europe unie et prospère. Ces mots, ce sont les mots que Jean Monnet a prononcés en 1953 lors de la création de la première école européenne. Et ils sont désormais, par tradition, enfouis avec la première pierre, la pierre de fondation de chaque école. C'est un rappel pour nous, et c'est affiché dans nos couloirs et dans nos salles, que les écoles européennes ont vocation à créer de jeunes Européens qui sont à la fois fiers de leur héritage personnel, leur patrie d'origine, ou leur patrice d'origine, puisque parfois nous avons, et même souvent, des enfants qui sont binationaux, mais qui ont aussi, globalement, un objectif commun, qui est un objectif de construction européenne dans la paix et la prospérité. Alors, pour ce faire, comment est-ce que nous faisons ? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que le programme scolaire des écoles européennes est un programme en lui-même assez particulier. Il est le fruit d'un consensus. Le programme européen est décidé à l'échelon des 27 pays de l'Union. Ce sont les ministres de l'Éducation qui forment le Conseil supérieur, qui proclament ces programmes. Ces programmes sont élaborés par des experts universitaires, scientifiques, inspecteurs, enseignants, missionnés pour ce faire, qui produisent régulièrement des programmes qui sont le fruit d'une analyse commune et consensuelle sur les matières à développer. Alors c'est certain que sur les mathématiques, ça va assez vite, encore que. Parfois, il y a des différences d'appréciation sur le niveau à donner aux élèves. Mais dès qu'on aborde des questions qui sont beaucoup plus problématiques, comme l'histoire par exemple, et on va y venir tout à l'heure, là on se rend compte que la dimension du consensus devient une dimension extrêmement importante. Une autre dimension importante des écoles européennes, c'est leur capacité à permettre la mobilité. Nos élèves sont habitués à faire au moins 6 mois de leur scolarité, généralement dans l'équivalent de ce qui est en France la seconde ou la première, dans une autre école européenne. Nous avons les mêmes programmes, donc un élève peut partir pendant 6 mois, s'immerger intégralement dans un autre pays, dans d'autres langues, et revenir en ayant le même cursus en poche, sans qu'il y ait de hiatus dans sa formation. Derrière tout cela, il y a une valeur fondamentale pour nous, qui est la capacité linguistique. Les écoles européennes, c'est le cas à Strasbourg, fonctionnent sur le principe de section linguistique. Il y en a 3 à Strasbourg, francophone, germanophone, anglophone. Un enfant qui rentre dans une école européenne rentre dans une section linguistique dès la maternelle jusqu'au baccalauréat. Mais en fait, dès la maternelle, il va avoir droit à une immersion langagière et linguistique dans une seconde langue. Il commencera réellement l'apprentissage d'une seconde langue dès la deuxième année du primaire. Il en apprendra une troisième en fin de primaire, de telle manière qu'à la fin de sa scolarité, eh bien, un élève à l'école européenne est au moins bilingue, si ce n'est trilingue, sans compter le fait qu'il a aussi peut-être appris une autre langue à côté, l'espagnol, l'italien, que sais-je. Et il pratique aussi très souvent les langues maternelles, hein, puisque l'ouzbek, chez nous, ce n'est pas un problème. L'école européenne de Strasbourg, c'est 51 élèves, 22 parmi les enseignants. C'est-à-dire que nos enfants vivent, depuis le début de leur scolarité jusqu'à la fin, dans un bain linguistique et culturel extraordinaire. Et on peut dire que plus que de la multiculturalité à l'école européenne, nous pratiquons l'interculturalité. Nous ne mettons pas les cultures les unes à côté des autres, nous les faisons interagir. Et nos élèves échangent constamment sur leur culture, y compris à travers des actes très simples. Nous avons une cuisine pédagogique, par exemple. Et bien régulièrement, dès qu'il y a une fête nationale ou une fête particulière, nos petits, et nos grands aussi, et bien partent en cuisine, préparent des choses à goûter pour les autres, et là-dessus, on travaille. Donc l'interculturalité est pour nous importante, parce que derrière ça, il y a justement ces valeurs de l'Europe que nous souhaitons mettre en place. Le point final, bien sûr, de la scolarité pour les écoles européennes, c'est le bac européen. Un baccalauréat qui est reconnu dans les 27 États membres, qui est un diplôme de très haut niveau, et qui d'ailleurs permet aussi d'aller suivre ses études supérieures n'importe où dans le monde, puisque ce diplôme est reconnu partout. Et ce diplôme a une vocation, justement, permettre à nos élèves d'avoir le choix de partir où ils veulent, de ne pas être uniquement liés à un pays dans lequel ils ont fait leurs études secondaires. Ils peuvent très bien quitter Strasbourg pour partir à Londres. Il y en a encore pas mal qui le font, qui passent pour cela les entretiens pour l'Imperial College, par exemple, Cambalt, dans les pays scandinaves, ainsi de suite. Et je vais rajouter un petit point à ce niveau-là que j'ai oublié. Chez nous, les langues ne sont pas simplement un objet d'apprentissage. On n'apprend pas les langues pour les langues à l'école européenne. On apprend les langues pour les utiliser très rapidement, et même dès le primaire. Les élèves ont des cours dans une autre langue qu'ils ont apprise. Ça signifie qu'ils ont une activité extrêmement importante dans une langue étrangère qui devient un autre modèle de pensée pour eux. C'est extrêmement important, peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard. La langue est elle-même un vecteur de sens, et parler plusieurs langues, c'est avoir la capacité finalement à admettre que les mêmes concepts ne se disent pas avec les mêmes mots et inversement. Donc nos élèves ont cette discipline non linguistique, et à la fin de leur scolarité, eh bien, nous avons des élèves qui ont bien sûr le français par exemple comme langue de section, mais qui font leur maths, qui feront leur maths en français, ça c'est obligatoire par contre, mais qui feront l'histoire en anglais, qui feront peut-être les sciences politiques en allemand, ainsi de suite. Et ça ne leur pose aucun problème, ils sont compétents dans toutes ces langues-là. Le but, c'est ça, c'est que globalement, les langues ne soient pas uniquement objets d'apprentissage, mais outils d'apprentissage. Ça développe une certaine plasticité intellectuelle extrêmement favorable, mais surtout, ça permet aux élèves de travailler sur le sens des concepts et le sens des mots. Alors, vous l'avez bien compris, pour une école européenne, une grosse question, et tout à l'heure je l'ai abordée, apparaît, c'est la question des programmes qui sont des programmes dangereux. Et quand je parle de programmes dangereux, bien sûr, je parle du programme d'histoire. 27 pays, 27 États, 27 nations qui ont eu chacun et chacune leur histoire, et souvent des histoires oppositives, des guerres, des conflits, qui font que nous n'avons pas la même vision forcément des derniers siècles. Alors c'est certain que demain, par exemple, nous allons fêter le 8 mai en France. Je ne suis pas certain que nos voisins allemands ou autrichiens ont la même vision du 8 mai. D'ailleurs, ils ne chôment pas en général le 8 mai, hein, en Autriche ni en Allemagne, alors que nous, nous fêtons le 8 mai, par exemple. Il faut aussi savoir une chose, c'est que l'enseignement de l'histoire, ça n'est pas une chose qui va de soi. En France, nous avons la chance d'avoir un enseignement de l'histoire pratiquement depuis le début, le primaire, jusqu'au baccalauréat. Un enseignement qui est d'ailleurs spiralaire, hein, puisqu'on refait le programme deux fois au collège et au lycée, voire même trois fois avec le primaire. On revient sur les mêmes matières en approfondissant. Il y a des pays dans lesquels l'enseignement d'histoire est totalement optionnel, voire n'existe pas. En Allemagne, selon le Land où on habite, on a plus ou moins une proposition de programme d'histoire. Dans les pays scandinaves, il n'y a pratiquement pas de programme d'histoire dans les curricula. On estime que l'histoire, c'est une discipline qui est faite pour des gens qui ont déjà une certaine maturité intellectuelle, et donc c'est fait pour l'université. La France, elle, comme l'Italie, comme l'Espagne, c'est plutôt latin comme approche d'ailleurs, pense que l'histoire, c'est quelque chose qui doit intervenir constamment. Certains pays font le choix d'une histoire, on va dire, à minima. On va étudier l'Antiquité, la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, et puis dès qu'on arrive à la Renaissance, on lève un peu le pied, parce que du coup, on touche à des choses qui sont difficiles. Les premières choses difficiles, les guerres de religion. Voilà. Donc on arrête là, parce que du coup, protestants et catholiques, ça devient n'importe quoi, on ne peut plus y toucher. Les écoles européennes ont dû répondre à cette idée-là, et elles ont fait le pari, les écoles européennes, de proposer de manière obligatoire à tous les élèves dans tous les pays un programme d'histoire. Et comment on fait ça? Eh bien, on met en place un programme de consensus. Un programme de consensus, ça n'est pas un programme qui évite les questions qui font mal, les questions difficiles, c'est un programme qui les aborde, mais qui les aborde d'une manière particulière. On part de la connaissance historique, on la critique, on met en place une vraie approche scientifique du fait historique. Par ce biais, on évite l'écueil qu'on reproche souvent, encore aujourd'hui, à pas mal de pays. On évite le roman national. C'est un petit peu le cas de l'histoire enseignée plutôt à l'est de l'Europe, dans certains pays. On fait en sorte d'appréhender les données de manière objective, en les confrontant, en opposant très souvent aussi les diverses dimensions qui ont marqué ces faits historiques. Et on demande aux élèves d'être par rapport à ça extrêmement vigilants et critiques pour en proposer finalement une approche clairvoyante, rationnelle, dépassionné. Ce qu'on demande aux élèves surtout, c'est d'arriver à faire de ces connaissances historiques quelque chose de plus, quelque chose qui soit constitutif de leur propre construction de personnalité. Ce n'est pas une histoire passive, c'est une histoire active. Et derrière ça, bien sûr, il y a la question de la mémoire. Alors, moi, je suis à la base un philosophe et j'ai une vision très critique des questions de mémoire. Non pas que je méprise les questions de mémoire, au contraire, mais je remarque très souvent qu'on a réduit, qu'on a une tendance du moins à réduire très souvent l'histoire à la mémoire. On a plein de journées de mémoire d'eux. C'est parfait, c'est très bien. Mais pour qu'une journée de mémoire fonctionne, il faut que derrière ça, il y ait une connaissance historique, scientifique, dure, qui existe. Sans quoi, on est dans l'incantation, on n'est pas dans le savoir. Les écoles européennes ont fait le choix aussi de développer des journées de la mémoire et elles n'hésitent pas à confronter les élèves à des lieux de mémoire. Alors pour Strasbourg, c'est très simple. Nous, je prends la dernière guerre mondiale par exemple, eh bien, nous avons la capacité d'aller très très vite au Strutthof, d'aller visiter ce camp qui est assez particulier, hein, consacré aux résistants déportés. Et nos élèves, quels qu'ils soient, les petits Français, les petits Allemands, les petits Autrichiens, les petits Turcs, les petits Kazakhs, sont là et découvrent ce qu'est un camp, sa réalité et la catastrophe qui s'y est produite. Nous travaillons dessus pour qu'ils comprennent aussi les choses et qu'ils s'en servent finalement pour bâtir leur propre système de pensée, avec l'idée peut-être que cela va les aider à éviter de reproduire les malheurs du passé. Mais ça se fait aussi en Allemagne, ça se fait aussi en Pologne. Donc les écoles européennes n'hésitent pas à aller dans le vif du sujet et à confronter les élèves qui ont été formés historiquement à une question de mémoire. Cette question est d'autant plus importante pour nous que l'école européenne de Strasbourg s'est très très vite proposé d'être le partenaire d'une très belle initiative qui a lieu à Strasbourg et dont vous avez certainement entendu parler, qui est l'Observatoire européen de l'enseignement de l'histoire. L'Observatoire européen de l'enseignement de l'histoire, c'est une structure intellectuelle et en même temps institutionnelle qui est une émanation du Conseil de l'Europe. Pour une fois, petit cocorico, c'est la France qui a été à l'origine de cette proposition, mais elle existe. Sa première session a eu lieu cette année, la prochaine s'annonce déjà. L'Observatoire européen de l'enseignement de l'histoire, lié au Conseil de l'Europe, a vocation à faire réfléchir des intellectuels de haut niveau, mais aussi des hommes politiques et des femmes politiques, mais aussi des juristes, mais aussi des politologues sur le sens d'un enseignement de l'histoire, non plus au niveau des 27, mais des 46. Et c'est extrêmement intéressant, puisqu'on se rend compte que là, on est réellement dans la confrontation des visions historiques. Le moindre fait que vous énoncez peut prendre une tonalité radicalement différente. Et ce qui est intéressant, c'est la confrontation des approches pour parvenir là aussi à une dimension de consensus rationnel. Encore une fois, ça n'est pas un consensus par défaut, c'est un consensus par accumulation positive. On parvient à quelque chose de supérieur parce qu'on se met d'accord sur un fait et on s'accorde pour dire que c'est une vision qui peut faire sens. Alors, je vous invite à suivre l'actualité de l'Observatoire. Vous la trouvez sur le site du Conseil de l'Europe. Les prochaines conférences, d'ailleurs, sont annoncées en ligne le 12 mai sur la paix en Europe. On ne peut pas plus actuel hein, comme thématique. Et derrière ça, bien, j'en viens à mon dernier point. Justement, cette question de l'éducation ouverte sur des valeurs, sur la maîtrise des langues, cette question de l'éducation dans laquelle l'histoire fait sens et la mémoire fait sens, eh bien nous l'avons malheureusement expérimenté de manière extrêmement forte ces derniers temps par l'arrivée de nos jeunes réfugiés ukrainiens. Dès le début du conflit, nous savions que nous avions d'abord à gérer potentiellement dans l'école un conflit. Nous avons des jeunes Ukrainiens, nous avons des jeunes Russes, de même que nous avons aussi des jeunes Bosniaques, Croates, Serbes, que nous avons des jeunes Turcs, des jeunes Chypriotes, des jeunes Arméniens, ainsi de suite. Donc, nous savons qu'il y a des communautés qui sont parfois dans l'opposition, et nous arrivons globalement à les faire vivre ensemble, et même à obtenir chez nos élèves du consensus. Chez les parents, c'est plus compliqué. Là, nous savions que la force du conflit entre la Russie et l'Ukraine allait avoir un impact, et nous ne pensions pas que nous allions avoir à accueillir, ce qui est le cas aujourd'hui, une quarantaine de jeunes réfugiés ukrainiens. Comment est-ce qu'on accueille 40 jeunes réfugiés ukrainiens quand il y a une communauté russe assez importante dans l'école, mais aussi des Serbes, des Bulgares, qui sont plus ou moins potentiellement des Croates actuellement, plus ou moins proches des Russes? Eh bien, justement, par ce travail d'abord d'accueil, un accueil, madame en parlera beaucoup mieux que moi, un accueil qui se fonde aussi sur l'écoute et l'accompagnement psychologique et traumatologique de l'enfant. D'ailleurs, nous constatons, nous, qu'entre les premiers réfugiés ukrainiens qui étaient venus pratiquement après leurs vacances et ceux que nous accueillons aujourd'hui, il y a une très grande différence. Les premiers ont quitté Kiev, Kharkov, comme ça. Ceux qui arrivent aujourd'hui ici ont vécu les événements. Ils ont vu les bombes, ils ont vu les morts. Ce ne sont pas les mêmes réfugiés, l'accueil est radicalement différent. Donc il y a cette première couche à mettre en place, mais derrière ça, il y a quoi ? Il y a leur donner une normalité minimale. Donc ils sont des élèves comme les autres pour nous. Ils ont des cours, ils ont des obligations scolaires et éducatives. Mais il y a aussi un travail que nous menons avec nos élèves sur le dialogue, sur les représentations historiques qu'ils ont du conflit. Et nos professeurs d'histoire, d'économie, de sciences politiques ont travaillé beaucoup à ce niveau-là pour finalement rationaliser le conflit. Madame nous dira que les émotions sont fondamentales, et c'est parfaitement vrai, mais à un moment donné, il faut que nous arrivions à rationaliser l'émotion, ou du moins à sortir d'un schéma émotionnel pur, pour parvenir à un schéma dans lequel l'émotion devient positive, et que nous puissions faire parler ces élèves des deux côtés, afin qu'ils se comprennent, qu'ils s'écoutent, qu'ils se comprennent si c'est possible, et que surtout ils mettent en perspective le réel qu'ils vivent. Pour l'instant, nous constatons que ce dialogue organisé par les équipes de l'école européenne, avec nos psychologues, avec nos conseillers d'éducation, mais surtout par les professeurs principaux, professeurs d'histoire, de sciences politiques, ainsi de suite, fonctionne. Et je suis même étonné, moi, de la qualité du dialogue que nos élèves ont entre eux, avec peut-être aussi une chance, c'est que ces élèves dialoguent entre eux en anglais. Beaucoup ont fait le choix de la section anglophone. Les petits Ukrainiens parlent très bien le russe, il n'y a pas de problème. Mais nous avons imposé que la langue de communication, au moins devant nous, soit l'anglais, afin que nous puissions comprendre. Là, au moins, on a déjà décentré la prise de parole à travers un outil différent. Cette décentration dans une langue qui est une langue commune et qui n'est pas la langue de l'un ou de l'autre, leur donne déjà l'occasion de réfléchir à ce qu'ils disent, pour le formuler. Et surtout, ça permet à ce moment-là d'arriver à quelque chose qui est beaucoup plus construit finalement que la simple affirmation personnelle dans sa langue de ce que l'on a vécu. Ça fonctionne bien pour l'instant, j'espère, je touche du bois, que ça continue à fonctionner bien. Mais ce qui est important, c'est ça. Et s'il fallait peut-être, pour finir, avoir une preuve ou du moins un indice de la réussite du modèle européen, c'est bien cela. C'est cette capacité à travers une éducation qui est riche, qui est excellente au sens de l'excellence pédagogique que nous voulons développer, qui n'est pas élitiste, qui est excellente, parce qu'elle est aussi inclusive. C'est de parvenir à faire que des élèves, y compris en situation de crise, puissent parvenir à un moment donné à dépasser tout cela, à se parler et à avancer ensemble sur, non pas des résolutions de crise, ça n'est pas leur travail, mais déjà des résolutions de conflits interpersonnels. Ne serait-ce que cela me donne l'impression que le système des écoles européennes est un système qui a quand même de belles vertus. Merci.
Je crois qu'effectivement, votre propos nous montre que d'abord la portée, là encore, on peut voir que le rôle de départ était celui de prendre en charge effectivement les enfants des fonctionnaires européens, mais aujourd'hui et cette fonction a évolué. Et donc aujourd'hui, vous nous l'avez dit, des enfants de personnes, même citoyens de la ville de Strasbourg et qui ont un projet professionnel international, peuvent intégrer cette école. Donc là aussi, c'est un projet qui a évolué. Et quand on entend votre propos, évidemment qu'on se dit ça ne peut être qu'une inspiration pour tous les autres établissements scolaires. Vous disiez ce matin que vous aviez 58 nationalités, il me semble, au sein de votre école aujourd'hui. Et je me faisais la réflexion qu'il y a d'autres établissements scolaires où nous retrouvons autant de nationalités qui, malheureusement, ne sont pas... on va dire, pris en charge, comme vous venez de nous l'expliquer dans le cadre de l'école européenne. Mais cela peut être également une inspiration. La place de ce travail de mémoire, je crois que vous avez bien montré que l'histoire, oui, ça peut aussi être une source de conflit. Donc, ce travail sur l'histoire comparée, qui, comme dit, n'est pas uniquement mené au niveau des écoles européennes, mais en tout cas qui trouve tout son sens, puisque c'est des enfants qui viennent de pays différents et qui donc subissent directement les conséquences de cette histoire qui peut-être a été racontée ou pas racontée et qui peut conduire à des conflits. Donc, c'est il me semble, pas seulement pour le système éducatif, mais simplement pour nous, en tant que citoyens européens, pour la construction européenne, ce travail que vous menez peut également servir à la construction européenne et être pris ailleurs. Et donc on en revient en fait toujours au conflit. L'histoire peut être source de conflit. Vous faites en sorte que le travail puisse mener à quelque chose de consensuel, de constructif, mais on est dans le sentiment, dans la réaction, dans l'émotivité, d'abord, avant d'arriver au consensus. Et évidemment, c'est une transition pour notre deuxième intervenante qui va nous parler justement de comment nous, en tant que citoyens, on peut aussi apporter notre pierre en prenant en charge une parole, en faisant naître une parole d'un enfant qui revient de la guerre, peut-être de la guerre d'Ukraine, peut-être d'une autre. Je vous donne la parole.
Moi, je vais vous parler comment on peut justement parler de la guerre avec les enfants. Alors, pas seulement avec les réfugiés qui arrivent, mais également avec les nôtres, parce qu'en fait, ils sont confrontés à beaucoup, beaucoup d'informations qu'ils voient soit chez nous, s'ils sont en contact avec les informations télévisées. Hein. Il y a certains enfants qui voient des images qu'ils ne devraient pas voir parce que on n'a pas fait attention. Ou voilà, c'est pas forcément. On n'est pas des mauvais parents, hein. On ne peut pas être toujours derrière eux en permanence. Mais il faut aussi savoir que énormément de choses circulent dans les cours de récréation avec les téléphones portables et que donc on n'est absolument pas en mesure de les empêcher de voir un certain nombre de choses, même ceux qui aimeraient beaucoup. Donc ce que je vais vous proposer, moi, ce sont 6 pistes pour accompagner les enfants et les adolescents dans des situations comme celle qu'on est en train de vivre en ce moment avec l'Ukraine. Alors ce sont des propositions, pas des conseils. Parce qu'en fait, les conseils, ça marche pas. Voilà, il faut qu'on puisse expérimenter, il faut qu'on puisse essayer par nous-mêmes. Il y a des choses qui iront pour certaines personnes et d'autres qui n'iront pas pour d'autres personnes. Donc, j'ai pas de méthode. J'aimerais bien, hein, si j'avais une baguette magique, ce serait quand même assez génial, mais je n'en ai pas. Donc, je vais vous proposer des choses et puis je vais vous proposer de les tester, tout simplement. Donc, la première chose, c'est protéger et rassurer. C'est protéger des écrans, hein, je viens de le dire. Mais c'est aussi essayer d'éviter la contagion émotionnelle, donc en l'occurrence la nôtre. Hein. Parce que, en fait, les enfants sont mimétiques, ils reproduisent ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent. Et s'ils sentent que les adultes sont terrorisés ou complètement désorganisés parce que il y a un conflit qui naît pas très loin de chez nous et qui commence à nous inquiéter par rapport à notre propre sécurité, eh bien, c'est ça avant tout qu'ils vont ressentir. Hein. Donc, on va essayer d'éviter cette contagion émotionnelle en prenant en compte notre propre angoisse. Hein. Qu'est-ce que ces informations que moi-même je regarde me font, qu'est-ce qu'elles génèrent chez moi? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est plus ténu? Et puis qu'on explique aux enfants, donc ça veut dire aussi qu'on apprenne à se connaître, hein, et ça c'est l'une des questions qu'on avait soulevées ce matin, c'est qu'en fait en France on n'apprend absolument pas à réguler ses émotions. Voilà, on est très axé sur le quotient intellectuel, mais alors le quotient émotionnel, tout le monde s'en moque, et le travail qui est fait à l'école européenne et d'inspiration scandinave aussi, et on sait que les scandinaves dans leurs écoles, hein, ont mis en place tout un tas de choses pour justement développer ce quotient émotionnel, ces habiletés sociales qui permettent aux enfants de mieux vivre ensemble et donc de mieux s'intégrer dans la société. Donc nous, on n'a pas eu cette chance. Et comme on n'a pas eu cette chance, eh bien, avant de pouvoir leur apprendre à réguler leurs émotions, il va falloir que nous, on apprenne à réguler les miennes, les nôtres, pardon. Lapsus pas révélateur. Et donc, on va commencer par accueillir les émotions. Hein, alors, on ne nous a pas appris à accueillir les émotions. Quand quelqu'un vit des choses difficiles, tout de suite, on lui dit « c'est pas grave ». C'est pas grave, ou t'inquiète pas, ça va s'arranger, en pensant l'aider. Or, plus on va lui dire que c'est pas grave, plus on va lui dire que ça va s'arranger, plus on va générer de l'inquiétude. Hein, c'est comme, un petit peu comme si vous preniez un poteau en descendant tout à l'heure les escaliers et que la personne qui est à côté de vous vous dise « c'est pas grave, ça va passer ». Pour l'instant, vous avez très très mal et ça va plutôt vous énerver en fait qu'on vous dise que c'est pas grave. Et bien là, c'est exactement la même chose avec les émotions des enfants. Hein. Alors j'ai pris cette image qui est plutôt pour les enfants et dont ils sont friands, mais on peut également... bien sûr, parler des émotions avec les adolescents. Alors, les ados, ils n'ont pas toujours très envie d'en parler avec nous parce que, parce que c'est la période. Hein, à l'adolescence, on n'a pas envie d'échanger avec ses parents ou les adultes qui nous entourent, et c'est normal. Mais ça n'est pas parce qu'on n'a pas envie d'échanger qu'ils n'ont rien à dire et qu'ils n'ont pas envie de poser des questions. Donc, qu'est-ce que c'est l'écoute active ? Eh bien, contrairement à son titre, c'est justement, dans un premier temps, de rester silencieux à côté de la personne. C'est-à-dire qu'on va s'asseoir à côté d'elle. Alors, quand c'est un sujet un peu tendu, on s'assied côte à côte, on ne s'assied pas en face de la personne, de façon à ne pas avoir forcément à soutenir le regard. On va éventuellement, avec les enfants, proposer un contact physique, un câlin ou quelque chose qui peut le rassurer, mais on n'oblige pas l'enfant à venir dans nos bras parce que, là encore, y a des personnes qui n'aiment pas être touchées quand elles ne se sentent pas bien. Donc, on ne va pas les forcer à recevoir ça. Alors, je dis ça parce qu'en fait, nous, quand on veut aider quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait en premier ? Eh bien, en fait, on va lui poser plein de questions. Pourquoi tu vas pas bien ? Qu'est-ce qui t'embête ? Pourquoi tu es comme ça ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Et donc, quand on parle à quelqu'un, on ne lui permet pas, en fait, de vivre l'émotion qu'il est en train de vivre. Et donc, le deuxième stade de l'écoute empathique, ça va être de valider l'émotion qu'on observe à ce moment-là chez l'enfant ou chez l'adolescent. Je sens que tu es triste, je vois que tu es en colère ou j'entends que quelque chose ne va pas. Et de cette façon-là, en fait, on est en train de vraiment de valider auprès de la personne ce qu'elle est en train de ressentir. Elle peut se dire oui, c'est vrai, je suis en colère. Et si elle a envie de nous en parler, eh bien, elle nous en parle. Mais si elle n'a pas envie de nous en parler, nous ne devons pas l'obliger à le faire. Ça, c'est aussi une des choses en tant que parent ou quand on est une personne qui veut aider, on cherche à savoir ce qui s'est passé. L'écoute active, c'est pas du tout savoir ce qui s'est passé, c'est juste accueillir la personne dans ce qu'elle est en train de vivre. Donc, on va mettre dans notre poche notre petite carte de détective, et puis on va accepter que parfois, eh bien, on ne saura pas pourquoi notre enfant est triste, notre adolescent est triste, on ne saura pas pourquoi il est en colère. Par contre, on lui a offert des outils qui vont lui permettre de faire le cheminement par lui-même et de sortir de son émotion un peu difficile par lui-même. Alors, donc c'est l'écoute, c'est être disponible, valider ce que l'enfant ou l'adolescent sait. Donc, qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce que tu sais de ce sujet ? Est-ce que tu veux me le raconter ? Donc, c'est là où on va justement lui permettre de pouvoir nous dire ce qu'il sait ou en tout cas ce qu'il veut bien nous dire. Et puis, on va s'adapter à l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne va pas refuser de parler de certains sujets parce qu'on considère qu'il est trop jeune. Parce que, comme je vous l'ai dit, très souvent, ils ont déjà vu beaucoup de choses. Donc, il vaut mieux en parler. Et on va répondre très simplement aux enfants. Alors, j'ai beaucoup aimé la phrase de M. Tadet ce matin. C'est « on se censure », donc on ne dit pas les choses qui pourraient être dites, et en même temps, on se censure de soi. J'ai trouvé ça assez génial. Et donc, voilà, on va très simplement répondre aux questions des enfants, sans dramatiser, mais sans minimiser non plus, parce qu'ils attendent nous leur répondions en vérité. C'est très important. Parce que, les enfants, dire la vérité, c'est très important parce que les enfants savent quand nous arrangeons la vérité. Quand on commence à raconter des trucs, ils sentent bien qu'on n'a pas envie d'aborder le sujet. Et donc, si ça n'est pas nous qui traitons ce sujet, je peux vous garantir qu'ils ont cherché la réponse ailleurs. Et que la réponse qu'ils vont avoir, ça ne sera peut-être pas celle que nous, on aurait aimé qu'ils aient, en tout cas à ce moment-là. Donc, on peut le dire, la guerre, c'est un conflit avec des armes entre deux pays, entre deux clans, entre deux factions. Et oui, on va utiliser des armes pour tuer les autres, parce que chacun veut avoir raison. Et que plus on utilise la force, plus on utilise la coercition, et bien plus ça donne envie à l'autre de se venger, de se défendre, et donc ça va augmenter les problèmes. Donc s'il nous demande est-ce qu'on va faire la guerre, eh bien, objectivement, moi j'ai pas de boule de cristal, donc on peut leur dire je ne sais pas. Mais c'est normal de penser que ça peut arriver. Hein. On ne va pas ni minimiser, ni prévoir des choses qui ne peuvent pas se presser, parce que là, en fait, on va vraiment augmenter l'anxiété chez les enfants. S'ils nous parlent de la mort, même chose. Hein, bah oui, la mort, ça existe. De toute façon, on est tous, et à un moment, on meurt tous aussi. Et personne ne sait. Alors, on sait à peu près tous quand on est né, mais par contre, aucun de nous ici ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Et c'est vrai que c'est pas très agréable, pas très satisfaisant, hein, d'avoir cet inconnu. Mais par contre, si j'y pense tout le temps, bah, ça va être problématique. Alors que si je me dis, bah, j'ai l'occasion justement de faire plein de choses avant que cet événement arrive, quand il arrivera, là, on va être plus en phase. Ensuite, on va parler de ses propres émotions. Alors, je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure des émotions. Effectivement, l'émotion, c'est un signal. Hein, c'est un signal qui indique quelque chose à notre cerveau. Et notre cerveau a besoin de ce signal pour pouvoir réagir. La colère, c'est la protection de son territoire. La peur, c'est assurer sa sécurité. La tristesse, ça indique à notre cerveau que quelque chose est fini et qu'il va falloir faire autre chose, commencer autre chose. Alors généralement, notre cerveau, il a compris, mais nous, on n'a pas tout à fait compris. Donc ce qui s'installe derrière, c'est ce qu'on appelle un état émotionnel. Et en fait, c'est l'état émotionnel qui pose un problème. C'est pas l'émotion en elle-même. Parce qu'en fait, par rapport à l'émotion colère, par exemple, le signal colère, si j'ai compris que c'était un signal, je peux transformer cette colère en quelque chose de productrice qui va faire évoluer les choses, qui va être tournée vers les solutions et pas vers le problème. Alors que si je me laisse juste envahir par ma colère, bah, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors soit je vais faire le paillasson et je vais me mettre dans un coin, soit je vais faire le porc-épic et là je vais casser tout ce qu'il y a autour de moi. Donc prendre conscience de ces émotions, c'est vraiment fondamental pour pouvoir, donc je reviens dessus parce que moi c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, être tournée vers les solutions et pas vers les problèmes. Hein, quand on est axé problème, on rumine, on tourne autour d'un pot, alors que quand on commence à chercher des solutions, eh bien, ça va être beaucoup plus facile. Et c'est pour ça aussi que j'avais utilisé 1 plus 1 égale 3. Hein. Quand on est différent, mais qu'on cherche à comment on va faire pour vivre ensemble au-delà de nos différences, alors que ce soit des différences ethniques, des différences de religion, des différences de neurodiversité. Hein. Il y a aussi plein de fonctionnements mentaux qui sont différents, eh bien, ça va vraiment nous permettre en fait de nous compléter, hein, de nous augmenter, plutôt que de générer des conflits. Donc, les enfants sentent quand nous faisons semblant. Ils le savent très très bien. Et c'est pour ça qu'il va falloir parler de notre peur, de notre colère, que c'est une émotion normale. Et qu'on va leur expliquer aussi comment justement on va faire pour vivre avec et transformer cette émotion en quelque chose qui va nous permettre d'avancer et pas de nous immobiliser ou de reculer. Hein. Donc, on va également utiliser le « on », hein, parce que le « on » est... Alors, moi, dans mon enfance, j'entendais, puis j'entends encore de temps en temps, hein, on est un con, bah oui, mais non, pas seulement. On, c'est aussi quelque chose qui peut être inclusif et confortable, qui va engager, qui va nous permettre de parler de façon générale et donc de ne pas engager soit une personne, soit un élément, et qui peut vraiment permettre d'apaiser les choses et de faire avancer les enfants justement dans cette recherche de comment on va faire pour aller mieux, même si on a un petit peu peur. Alors, la sixième proposition que j'ai envie de vous faire, c'est aider l'enfant à trouver ce qui lui fait du bien. Alors là, j'ai mis un exercice de respiration. Mais c'est important, alors, d'être en capacité de proposer des choses aux enfants. Hein, ça, je ne remets absolument pas les choses en question. Mais les enfants ont besoin d'apprendre à vivre par eux-mêmes, à devenir autonomes, à avoir leurs propres idées. Souvent, quand un enfant ne va pas bien, eh bien, nous, parents, on fait un peu les pompiers, hein, et puis on essaie d'apporter plein de solutions pour que justement ils puissent s'en sortir. Alors, ça part d'un super bon sentiment. Le problème, alors moi, je prêche pas pour ma paroisse parce que c'est exactement ce que j'ai fait, jusqu'à ce que je réalise que c'était complètement contre-productif parce que ça neutralisait complètement l'autonomie des enfants avec qui je le faisais. Hein. Donc l'idée, c'est d'abord de lancer, bah, de quoi aurais-tu besoin pour aller mieux ? Qu'est-ce qui pourrait t'aider ? Voilà, si cette émotion très forte revient et que tu ne peux pas en parler, comment toi tu pourrais faire la prochaine fois dans la même situation pour que justement ça puisse s'apaiser, hein. Donc on va et derrière on peut, s'il n'a pas d'idée, on peut lui dire que dirais-tu de faire ceci, de faire cela, mais on va vraiment proposer plusieurs choses. Hein. On va pas de façon à ce que lui-même teste et voit ce qui lui fait du bien, ce dont il a besoin. Et puis peut-être que ça marchera une fois et la fois suivante il faudra faire autre chose. Mais c'est vraiment en fait permettre à ses enfants de gagner en autonomie. Hein. Parce qu'on nous parle sans arrêt de l'autonomie, mais en fait on fait beaucoup d'injonctions contradictoires. Hein. C'est-à-dire soit autonome, bah c'est un ordre, donc ça ressemble plus trop à l'autonomie. Hein. Et puis surtout comme on les accompagne. Eh bien, très souvent, moi, je vois pas mal de parents hein, qui, une fois que leurs enfants ont 18 ans, disent « Bon, ben maintenant, tu te débrouilles tout seul. » Seulement, le problème, c'est qu'avant, on a tout fait pour eux. Donc, se débrouiller tout seul, ben, justement, ils ne savent pas. Mais ça, c'est aussi lié à notre éducation. Hein. On a été élevés, protégés. Du coup, on a envie de protéger nous-mêmes. Mais plus on protège nos enfants, plus on les fragilise. Donc, il faut vraiment qu'on leur laisse cet espace, même si, parfois, ça n'est pas du tout confortable pour nous. Alors, le cerveau des enfants est en construction. Hein. On sait aujourd'hui que le cerveau va se finir vers 25 ans. Hein, et qu'avant 25 ans, eh bien, ce cerveau est en construction et que les enfants modélisent sur nous. Je le redis encore une fois, hein, ils ne poussent pas tout seuls, ils modélisent sur nous. Donc, si les enfants sont entourés de gens violents, humiliants, rabaissants, moralisateurs, eh bien, ils seront violents, rabaissants, moralisateurs et humiliants. Hein, dans la Convention des droits de l'enfant, il est écrit que nous devrions être des co-régulateurs. Voilà, et c'est là où ça devient un petit peu compliqué, c'est que pour être co-régulateur, eh bien, il faut l'avoir appris. Or, nous ne l'avons jamais appris. Et notre génération, elle est en train d'apprendre à développer ce quotient émotionnel qui permet justement de mieux réguler ses émotions. Hein. Donc, la plupart des enfants, en fait, le premier étage, hein, qui est le cerveau supérieur, celui qui réfléchit, celui qui nous permet justement de prendre des décisions, eh bien, pendant toute une partie de l'enfance, il est absent. Hein, et il va se construire en nous regardant. La plupart des adultes que nous sommes, je suis désolée, c'est un petit peu une mauvaise nouvelle, mais en fait, on n'est pas fini. Hein, parce que nous, notre premier étage, il n'a pas été très, très bien construit parce qu'on n'a pas eu les bons exemples. Donc là, à l'heure actuelle, eh bien, il faut qu'on construise ce premier étage en même temps que nos enfants. Alors, c'est une grande chance parce qu'en fait, je vous l'ai dit, donc, les enfants modélisent sur les adultes. Et c'est une grande chance parce que en nous voyant nous tromper, en nous voyant réajuster, eh bien, petit à petit, ils vont apprendre qu'eux-mêmes, se tromper, c'est pas grave, et que c'est justement parce qu'on se trompe qu'on apprend. Il y a une super image des Shadok, hein, où il dit « plus je me trompe, plus ça rate, donc plus j'ai de chance que ça marche ». C'est exactement ça. Hein. Donc, prenons nos échecs comme des expériences qui vont permettre à nos enfants, et il faut qu'on l'exprime aussi devant nos enfants, hein, pour leur montrer comment nous, on réagit par rapport à ces informations autour de la guerre, par rapport à ces images qui sont très choquantes, et peut-être qu'ils s'en inspireront. Mais ça n'est pas par contre parce que ça marche pour moi que ça marchera forcément pour eux. Donc, je leur dis, voilà comment moi je fais. Essaie, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, on cherchera autre chose. Hein. Et donc, voilà, je finirai sur ces mots-là. Pour que nous soyons des co-régulateurs, lançons-nous dans l'aventure de la découverte de nos émotions, pas toujours très agréables.
Alors, quel challenge pour nous, puisque nous venons d'apprendre que pour bien communiquer, il faut d'abord que nous soyons capables d'exprimer nos sentiments pour pouvoir être en capacité d'accueillir la parole et l'émotion des enfants. Donc, c'est une bonne nouvelle. On se remet en route et on fait un petit peu de formation continue. Donc, ce sujet, on l'avait amené comme une action que chacun d'entre nous peut entreprendre ou pas, mais j'allais dire une action citoyenne. Et je disais ce matin, quand l'Allemagne a accueilli 2 millions de migrants en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans, évidemment que ce ne sont pas juste les pouvoirs publics qui l'ont fait. C'est toute la population allemande qui l'a fait. C'est les citoyens allemands qui, bénévolement, se sont mis à donner des cours d'allemand, à les aider à avoir des groupes de travail sur l'aide aux formalités, le suivi psychologique. Il y a eu énormément de spécialistes, de psychologues qui ont accompagné des gens. Et je pense que dans chaque action de ce genre, on grandit soi-même aussi, ce qui est exactement le propos, enfin c'est ce que je retiens de votre intervention, c'est que il y aura également une plus-value pour nous-mêmes si nous prenons ce chemin d'aider, d'accueillir la parole des enfants traumatisés de la guerre ou non, donc c'est également une bonne nouvelle pour nous.
Petite phrase que j'aime beaucoup, alors je n'ai pas retenu de qui elle était, mais je l'aime beaucoup. Arrêtons de nous dévisager et prenons le temps de nous envisager.
Magnifique. Sur cette belle phrase, je crois que je vais simplement donner la parole aux questions. Et ben voilà, la première est arrivée.
Une question à Monsieur Ted et une réflexion. La question, c'est ce que vous nous avez dit sur l'histoire. Je pense qu'effectivement, les Européens doivent apprendre leur histoire, enfin se créer une histoire, sinon d'autres vont nous raconter leur histoire. Et vous n'avez pas parlé de géographie. Or, l'histoire est fille de la géographie. Est-ce que vous enseignez la géographie dans vos écoles ?
Nous enseignons la géographie et nous l'enseignons d'une manière particulière, c'est-à-dire que nous avons deux cours distincts. Il y a un cours d'histoire et les élèves peuvent faire un cours d'histoire. Il y a un cours de géographie, les élèves peuvent choisir un cours de géographie. Il y a un cours de sciences politiques, ils peuvent le choisir. Ils peuvent choisir les trois. Donc, en fait, nos élèves, là, ont cette chance d'avoir aussi une sorte de programme un peu à la carte, ainsi de suite, que la géographie est enseignée. Je dirais que la géographie, elle a peut-être un avantage, c'est que la géographie, elle se fonde quand même sur des réalités qui sont plus facilement accessibles, a priori, que le fait historique. La géographie physique ne pose pas de questions. Une montagne, c'est une montagne. Un synclinal, c'est un synclinal. On ne va pas se mettre à penser anticlinal à ce moment-là. Ce n'est pas possible. En revanche, dès qu'on parle des frontières, il y a un souci. Parce que là, on parle d'histoire aussi en même temps. Une frontière, qui est à la fois un lieu de transition, un lieu d'échange, un lieu économique, un lieu géostratégique, c'est d'abord un lieu historique. Alors, c'est bien la raison pour laquelle nous avons, le 13 mai, à 18h à l'École européenne, une conférence avec des universitaires. Et si vous souhaitez y participer, laissez-nous un mail à l'École européenne pour avoir, n'est-ce pas, une invitation. Il y a une conférence à 18h sur les frontières avec des universitaires qui viennent de toute la France et qui pourront vous parler des frontières en Europe. La géographie est enseignée, mais justement, ce qui est avantageux dans la géographie, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est une discipline qui permet quand même une approche beaucoup plus rationnelle et apaisée. Dès lors qu'on élimine l'aspect historique, qu'on est sur du physique ou de l'économique, que l'histoire. Ce qui est assez intéressant, et ça je le constate très souvent, c'est que nos élèves qui font le choix de l'histoire font généralement le choix des sciences politiques ou de la géographie en même temps. Et parfois, chose amusante, dans une autre langue. Encore une fois, un petit francophone qui va prendre l'histoire en anglais et la géographie en allemand. Et voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, certaines réalités parfois se recoupent différemment et permettent, à travers le choix des mots, la compréhension des concepts, dans des langues différentes, de faire du lien, d'avancer de manière forte. Donc, en effet, il y a un cours de géographie. Ce matin, dans la première conférence, je parlais de ça, je veux dire que quand nous avons appris donc, l'arrivée d'enfants ukrainiens dans l'école européenne, j'avais envoyé un message à toutes les familles. Et on envoie automatiquement dans les trois langues, bien sûr, de travail de l'école. Et j'avais dit qu'il y avait une arrivée d'enfants ukrainiens qui étaient réfugiés du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et j'avais traduit, parce que très rapidement, le soir à 22h, on n'a pas forcément le temps de peser tous ces mots, j'avais traduit le français « conflit » avec le mot « conflict ». Erreur fatale, vous imaginez bien, puisque pour un anglophone qui est un petit peu tatillon, le mot employé, c'est le mot « war ». Il y a une guerre, ce n'est pas un conflit. Le conflit est en une forme, n'est-ce pas, minorée, extrêmement localisée, n'est-ce pas, c'est pratiquement une algarade, ça n'est pas une guerre qui a explosé. Le lendemain matin, j'avais quand même pas mal de mails, un petit peu énervés, me disant « Comment osez-vous diminuer la dimension guerrière du fait ?» Je me suis platement excusé, hein, arguant de la fatigue du soir, et du fait que j'en ai fait, j'avais traduit de manière un peu systématique « conflit » par « conflict », alors que je n'avais pas fait la même chose en allemand, parce que j'avais employé le mot « guerre » en allemand. Vous voyez comme quoi, voilà, c'est comme ça. C'est important, parce qu'en fait, ce que nous apprenons, nous, à nos élèves, c'est à prendre les mots pour ce qu'ils sont, de simples signifiants. Le signifier derrière, c'est autre chose. Ce que nos élèves ont parfaitement compris, certains parents ne sont pas parvenus à le faire. C'est dommage, mais c'est comme ça.
J'aimerais juste rajouter un aspect sur la géographie. Là où je trouve que ça devrait effectivement aussi rentrer dans le travail de mémoire qu'on met sur le mot histoire, c'est le nom des villes qui renvoient à une histoire nationale. Je prends un exemple, mon premier projet en Pologne, on m'a dit vous allez à Breslau. Je prends une carte, je regarde. Ben, Breslau, ça n'existe pas sur une carte. Breslau, c'est un nom qui renvoie à l'histoire allemande. Et que tout le monde connaît en Allemagne. Je ne suis pas allemande, donc je ne le connaissais pas. Ce n'est pas ma référence. Et pourtant, ça fait référence à des cartes et à la géographie. Donc, j'allais à Wrocław. Mais il faut savoir que Wrocław, c'est Breslau. Et donc, effectivement, la géographie joue également un rôle dans... parce que les cartes, aujourd'hui encore... on a des cartes dans sa langue, on traduit des villes et même des régions et des pays. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait bien de ne plus traduire et de vraiment ôter ces références ou alors uniquement prendre des références consensuelles. Donc on est nouveau dans le sujet historique.
Même exemple, c'était un voyage que j'avais fait quelques années, n'est-ce pas, à Istanbul. Et bien sûr, j'ai eu droit, n'est-ce pas, à la remarque, non, vous n'allez pas à Istanbul, vous allez à Constantinople, bien sûr. Voilà, c'était une forme d'humour, mais c'est intéressant. En effet, par contre, la proposition que vous émettez est extrêmement intéressante, et elle commence à obtenir aujourd'hui l'assentiment de tout le monde, c'est qu'on garde le nom de la ville dans sa forme originelle. On ne cherche plus à traduire les noms des villes, parce que ça ne sert à rien, et désormais, il faudra dire London pour Londres, et c'est très, très très bien, comme ça, München, pas besoin de mettre Munich, Monaco. Je vais à Monaco, quand je suis italien, lequel ? Monaco chez les Grimaldi ou Monaco la bière ? On ne sait pas. Donc voilà, donc c'est extrêmement important, garder le nom propre de la ville, de la région, du pays. C'est une façon aussi finalement de parvenir à clairement indiquer les choses en sortant du conflit qui n'est pas utile.
Et c'est vraiment une réflexion que je me fais à la lumière de vos deux interventions. Nous avons élevé nos quatre enfants et effectivement nos enfants ont été emmenés au Struthof. C'est dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on emmène les enfants au Struthof. J'y suis allé moi-même, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de mal. Et pourtant, j'ai passé plus de 30 ans dans l'armée, et je me suis retrouvé dans des conflits, dans le cœur des opérations. À peine 10 km d'ici, nous avons un musée qui s'appelle le musée du plan d'action Sussex, qui raconte une histoire peu connue. Cette histoire, c'est l'histoire de 120 Français qui ont conduit le plan de renseignement de l'opération Poséidon, qui a permis le plus grand débarquement qu'on ait jamais connu à ce jour. Ces 120 Français, qu'on connaît très peu, ont changé le cours de l'histoire. Ils ont permis la victoire. Sur les 120, il y en a une dizaine, une quinzaine qui ont été, qui ont connu le sort que connaissent certains soldats qui se sont engagés, qui vont au bout de leurs convictions. Et ceux-là, ils n'ont pas eu le temps d'arriver au Struthof. Quand on pense au Struthof, est-ce qu'on pense à toutes les personnes du réseau Alliance, par exemple, qui ne sont pas allés au Struthof, mais qui ont continué leur vie et qui sont morts peut-être récemment, certains, dans la décennie qui vient, et dont on n'a jamais parlé. Quand je pense à l'Europe, je me demande ce qu'il faut apprendre à nos jeunes. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas leur apprendre à oser et à gagner ? On est engagé actuellement dans un conflit en Ukraine. Ou est-ce qu'il faut leur apprendre ce qu'est le résultat quand on perd, quoi ? Voilà, c'était... C'était cette réflexion. Je sais qu'elle peut choquer, mais je pense que, de même manière que si on ne crée pas notre histoire, si on ne raconte pas notre histoire, on va nous raconter notre histoire. Et je pense que si on n'est pas prêt à se battre, on risque de connaître des issues qui sont peut-être pas très favorables.
Être citoyen, je pense que c'est aussi se battre. Mais je vais... Qui est-ce qui veut répondre ?
J'apporterai moi, peut-être une réponse rapide sur l'aspect chemin école européenne. Vous avez parfaitement raison. Quand nous en mettons en place un travail sur la mémoire, nous mettons en place un travail sur la mémoire qui a vocation d'abord à faire qu'il y ait une proximité personnelle entre l'élève et le lieu, le fait, les personnes qui ont vécu sur le site. Par rapport à l'histoire, qui est toujours un petit peu impersonnelle, parce que c'est une science en général, ce sont des connaissances, la mémoire, c'est une relation beaucoup plus personnelle, beaucoup plus presque émotionnelle, un lieu. Derrière ça, il y a pour nous une vocation extrêmement importante, et c'est rappelé globalement dans tous les cadres des programmes européens, c'est que à travers quelques figures emblématiques qui créent cette proximité, un tel résistant déporté ou autre chose, il y a les autres qui sont là. Et en fait, ce que nous faisons à chaque fois, c'est que nous insistons pour que les élèves cherchent si, dans leur proximité ou dans leur nationalité d'origine, il n'y a pas justement aussi des personnes qui ont connu le même destin, alors soit au Stutthof, soit dans un autre camp de déportation et d'extermination, ainsi de suite, dont ils pourraient parler à un moment donné. On fait en sorte finalement que le fait historique soit connu, que derrière ça, il y a une approche, on va dire, un peu plus personnelle. Et derrière ça, il y a aussi l'idée, bien sûr, l'Europe est émue par des valeurs de paix, ainsi de suite, mais aussi des valeurs de réaction. Je vous donne un exemple extrêmement simple et qui, pour moi, est extrêmement important. Alors, je n'ai pas malheureusement votre expérience de 30 ans en tant que militaire. Je n'ai eu qu'une expérience de quelques années sous les armes, dans un régiment para. Et en arrivant ici à Strasbourg, on nous a proposé de créer à l'école européenne une classe de sécurité de défense globale. Et il fallait choisir un régiment. J'ai choisi Eurocorps. Parce que d'abord, c'est le corps européen, donc c'est très bien. Et puis surtout, parce que c'est une unité qui se déploie, alors pas forcément de manière extrêmement, on va dire, opérationnelle, en haute intensité, mais qui est constamment sur le terrain. Et en fait, nos élèves rencontrent, sauf durant le Covid, très régulièrement les officiers, les sous-officiers et les militaires d'Eurocorps, dont nous avons d'ailleurs parfois des parents, parmi nos, enfin, dont nous avons des enfants, dont les parents travaillent pour Eurocorps. C'est extrêmement important parce qu'en fait, on leur apporte à la fois l'idée, n'est-ce pas, que la paix, c'est une chose qui est une valeur absolument magnifique et à préserver, mais que parfois la paix, elle aussi, elle se passe par une action volontaire de préservation de la paix, qui peut être malheureusement parfois une action armée. Et quand je dis malheureusement, c'est un mot en trop, qui peut être une action nécessairement armée. Il n'y a pas de bellicisme, il y a juste le fait de rappeler le réel. Et moi, ce que je vois, c'est que nos gamins qui viennent de 58 nationalités, et comme tout à l'heure je l'ai dit, il y a des gamins qui ont connu des conflits. Hein, on a des Arméniens, par exemple, qui ont vécu les derniers conflits en Arménie, ainsi de suite. Pour eux, ça leur parle. Et les autres qui n'ont pas connu et ont cette chance extraordinaire de conflit, les petits Français, les petits Allemands, ainsi de suite, cette expérience qu'ont les autres de la vie en danger, parfois de l'exil, et les Ukrainiens aujourd'hui nous le montrent de manière particulière, ça fait du sens, non pas pour les apeurer, mais au contraire pour leur faire comprendre que ces valeurs-là, à un moment donné, il faudra aussi les défendre, si ça se trouve. Encore une fois, il n'y a pas de bellicisme, il n'y a pas de volonté de guerre, il y a juste l'idée chez ces élèves que ce que l'on veut, il faut pouvoir le préserver, voire le conquérir parfois. Mais ça fait vraiment partie du programme des écoles européennes, avec cette idée que rien n'est gagné. Vous en parliez ce matin, c'est un processus qui est constant. Nous avons, nous, la fausse apparence d'une paix un peu trompeuse ici, parce que tout va bien, tout est tranquille, mais ce n'est pas vrai. Et dans une école européenne, justement, les gamins vivent avec des gamins qui, eux, ont connu la guerre dans leur famille, et pour certains, qui ont connu la guerre de manière très forte, avec la perte d'un parent, d'un frère, ainsi de suite.
Si je puis me permettre, je crois qu'il y a une réponse aussi à votre question qui est l'actualité et qui est un événement absolument incroyable. C'est que la guerre en Ukraine a conduit aujourd'hui les Allemands à décider de refaire une armée. C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que l'Allemagne décide de se relancer dans la création, dans l'investissement de l'armée jusqu'à présent. C'était même marqué dans leur constitution, ils ont refusé. Donc là, c'est une décision qui a été prise, ça veut dire qu'il va falloir passer effectivement peut-être par le changement de la constitution. Mais la défense commune européenne, alors il y a Eurocorps, mais c'est pas, on va dire... une institution de l'Union européenne, il y a Frontex. Frontex, c'est alors on le sait pas parce que c'est vrai que c'est pas de ça dont on parle et c'est pas des images qu'on montre, mais c'est également des gens qui sont sur le terrain et qui enfin se battent dans les situations qu'il faut. Donc ce n'est pas effectivement dans l'actualité, ce n'est pas des images qu'on montre, mais en tout cas il y a quelque chose qui a bougé. Le fait que l'Allemagne a pris cette décision va certainement aussi changer la donne sur la défense commune en Europe. Et ça, c'est une petite révolution aussi. Et donc, ça répond un petit peu à votre question. On va, en tout cas, on est prêt aussi quand, notre territoire ou nos valeurs sont mises en danger... à les défendre. On remet les choses à plat et on rechange de cap. Et même quand on voit les Ukrainiens demandent l'adhésion parce qu'ils croient à nos valeurs, mais il n'y a pas de contradiction avec le fait de demander des missiles, des chars et des... Apparemment, ce n'est pas contradictoire. Et apparemment, nous l'acceptons puisque nous l'aimerons. Donc, je crois qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui bouge, en tout cas sur cette vision des choses, mais il n'empêche que ma première intervention de dire que être citoyen, c'est aussi se battre, je crois que c'est la première bataille, c'est la bataille pour les valeurs qui en est et qu'on est à en défendre.
Et donc moi, j'ai un petit peu envie de surenchérir aussi, parce que quand on parle des émotions, de l'apprentissage des émotions, on dit mais pff, qu'est-ce que ça vient faire dans le Schmilblick. Je dirais que justement, hein, quand en situation d'urgence, c'est notre cerveau archaïque qui prend le pouvoir. D'accord ? Donc soit on va fuir, soit on va combattre, soit on va être sidéré. Si on apprend à réguler nos émotions, si on apprend à connaître tous ces circuits qui nous font réagir, eh bien justement, on ne sera plus en réaction. Hein. On pourra proposer des réponses. Et donc, ça peut aussi éviter hein, des gens qui ont appris à développer leur intelligence émotionnelle. Ça peut aussi éviter de se retrouver face à des gens qui pètent un câble et qui, du coup, se mettent à massacrer tout le monde de façon terrible. Hein. C'est aussi tout ce travail. Moi j'ai eu cet échange sur les réseaux en disant ouais mais bon c'est de la politique, c'est pas que de la politique, c'est vraiment aussi de comment fonctionne l'humain, quoi, qu'est-ce qui se passe et du coup comment on peut apprendre à l'humain à se perfectionner pas seulement dans la technologie mais aussi sur le plan humain.
C'est la question de la guerre. Alors le nationalisme, comme disait François Mitterrand, c'est la guerre. Alors quelle Europe on veut? Est-ce qu'on veut l'Europe des nations ou est-ce qu'on veut l'Europe socialiste, l'Europe internationaliste? Et là, pour la question de la guerre, pour l'Ukraine, il faut quand même observer que ce que les Allemands appellent les libérales démocraties, les démocraties libérales dont nous ferions partie, enfin nous faisons partie, nous, la France, l'Allemagne, est-ce qu'elles n'ont pas été trop... enfin, elles ont accepté que Poutine, à partir de 2014, donc annexe la Crimée, ensuite mène une guerre dans le Donbass. Et donc, il y a une responsabilité certainement des démocraties, des États bourgeois, qui ont intérêt à ce qui est la guerre, et que la guerre, pour qui la guerre est un moyen certainement de pouvoir continuer d'être souverain et de subordonner l'ensemble des travailleurs de tous les pays. Quand les prolétaires font la guerre, et cette guerre, par exemple, si on prend l'exemple de la guerre de 1870, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en tout cas, moi, quand j'étais au collège ou lycée, on ne m'a jamais parlé de la guerre de 1870, la bataille de Sedan, ensuite la Commune, jamais. On m'a parlé, par contre, effectivement, de manière spiralaire, comme vous avez dit, donc au collège et au lycée, de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour revenir sur cette guerre de 1871, Karl Marx, qui était un contemporain, avait expliqué que cette guerre entre la France et l'Allemagne était un moyen pour les capitalistes, les États bourgeois, d'organiser une guerre entre les deux prolétariats de deux pays, les prolétariats allemands et français, qui à l'époque étaient dans la situation de pouvoir s'unir contre les capitalistes. Il faut savoir que pour la guerre 14-18, la guerre qui a été faite par toutes les démocraties, ce que c'était des démocraties, cette guerre a été faite en 14-18 entre des gens qui étaient des cousins, c'est-à-dire que Nicolas II, qui était l'empereur de l'Union de la Russie à l'époque, c'était le cousin du Kaiser allemand, qui était Wilhelm Erzweiter, je ne sais plus, et c'était également le cousin du grand-père de l'actuelle reine d'Angleterre. Donc ce sont des gens qui appartiennent à des capitalistes, ce sont des gens qui sont propriétaires des biens de production, ce sont des gens qui sont des bourgeois et qui, à l'intérieur de leur système d'État bourgeois, font la guerre et qui meurent à la guerre, c'est en général les travailleurs, les prolétaires. Les travailleurs de tous les pays qui ne sont pas unis contre les tyrans de tous les pays, c'est le modèle donc de la démocratie peut-être ou du capitalisme. Mais la question est la suivante, c'est quelle Europe on veut ? Est-ce qu'on veut une Europe qui soit celle de Maastricht, du traité de Maastricht de 1993, une Europe des travailleurs, une Europe des travailleurs qui peut circuler dans tous les pays, ou est-ce qu'on crée des situations de guerre, parce que cette guerre contre l'Ukraine, c'est une guerre en fait contre, alors vous avez dit les valeurs, mais c'est une guerre, en tout cas si cette guerre a eu lieu, elle a été certainement, je ne sais pas si elle était entièrement soutenue, mais par les États de l'Union européenne, par les 27 États de l'Union européenne, Poutine a eu la main libre. N'avait pas. Donc voilà, c'est la remarque que je voulais faire.
Merci. Alors, je pense que votre question est extrêmement intéressante, mais malheureusement, elle déborde un petit peu du cadre de cette conférence et elle mériterait à elle seule une grande conférence d'une journée entière avec des spécialistes de géopolitique. Pour revenir à ce qui nous intéresse, en l'occurrence dans le cadre et de l'éducation européenne et de l'accompagnement aussi des victimes après un syndrome post-traumatique. Je crois que fondamentalement, et c'est ce que nous essayons de montrer à l'École européenne de Strasbourg, c'est que face à une situation de crise, il y a une position à adopter qui est une position d'abord de sérénité, parce qu'on se fonde sur une position rationnelle. Alors bien sûr, l'émotion est là, mais on dépasse l'état émotionnel, on évite la sidération, on évite la panique. On cherche plutôt à aller vers quelque chose qui est intellectualisé, entre guillemets, rationalisé. Et en même temps, derrière ça, on prend, entre guillemets, une dimension de réaction qui soit positive et qui permette finalement d'avancer, de dépasser la crise. J'ai souvent dit à mes jeunes bacheliers, lors de la cérémonie du bac, deux choses. C'était un petit peu les motos de chacun de mes discours de remise de diplôme. La première, c'était un petit mot grec. Ein aristein. Toujours s'améliorer. Toujours devenir meilleur soi-même. Pas meilleur que les autres. Être meilleur tous les jours, soi-même, par rapport à soi. La deuxième chose, je la dois à mon régiment d'origine, le 6e RPIMA, croire et oser. Quelqu'un qui ne croit pas et qui n'ose pas ne peut pas avancer. Je pense que fondamentalement, c'est ça aussi que l'éducation européenne permet, c'est se perfectionner soi-même chaque jour en tant que personne d'un intellect, personne avec une armature psychologique, ainsi de suite, en tant que citoyen. Et c'est, on se perfectionne parce que finalement, à un moment donné, on va croire à ce qu'on fait et on va oser réaliser les choses qu'on veut faire.
Vous avez presque déjà prononcé la conclusion. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Je mettrai juste mon mot que je crois que j'ai répété depuis le début de cette conférence. Construire, continuer à construire avec y croire, continuer à construire, parce qu'une démocratie, c'est aussi... j'aime aussi le mot combat. Il faut s'investir. La démocratie, ça peut aussi mourir. Donc, continuons à construire avec les instruments qui nous ont été présentés aujourd'hui, à échanger grâce à nos connaissances de langue, grâce à l'écoute de l'autre et à l'écoute de nos sentiments. J'ai bien entendu j'ai bien retenu votre intervention. Soyons citoyens actifs. Je remercie nos deux intervenants pour leurs propos que j'ai trouvé absolument intéressants, positifs. Et nous rappelons que cette conférence est organisée par les défricheurs. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle soirée. Je voudrais également vous inviter à prendre part au concert qui a lieu à 18h.